Je n'avais pas compris le passage ici.
Tu n'as pas compris?
Dans le mental de lumière, quand il est à son apogée, ce caractère de vérité se révèle, quoique à travers un vêtement qui est transparent, même quand il semble couvrir.
Et alors?
Cet vêtement qui est transparent.
C'est une image. C'est à peu près comme ça. Dans la vision supramentale, on a une connaissance directe et totale et immédiate des choses, dans le sens que on voit tout en même temps, complet en soi-même, total. La vérité d'une chose, sous tous ses aspects, en même temps, et simultané complet, et dès qu'on veut expliquer cela, ou le décrire, on est obligé, pour ainsi dire, de descendre un plan qu'il appelle ici le mental de lumière, où les choses doivent être dites, ou même penser ou exprimer l'une après l'autre dans un certain ordre et dans une certaine relation les unes avec les autres. La simultanéité disparaît parce que dans la condition actuelle de notre mode d'expression, de dire tout en même temps d'un seul coup est impossible. Et nous sommes obligés de voiler une partie de ce que nous voyons ou nous savons pour le faire sortir l'un après l'autre. Et c'est ça qu'il appelle le voile qui est transparent, puisque on voit tout, on sait tout en même temps, on a la connaissance totale d'une chose, mais on ne peut pas l'exprimer tout entière d'un seul coup. Il n'y a pas ni de mots, ni de possibilité d'expression tant que nous sommes tels que nous sommes. Il faut nécessairement que nous nous servions d'un procédé inférieur pour nous exprimer. Et cependant, en même temps, nous avons la connaissance totale. C'est seulement une nécessité de transmettre cette connaissance dans des mots qui nous oblige à voiler, pour ainsi dire, une partie de ce que nous savons et à ne le laisser sortir que successivement. Mais c'est un voile transparent puisque nous connaissons la chose, nous la savons, nous la voyons, nous la connaissons dans sa totalité, mais nous ne pouvons pas l'exprimer tout d'un seul coup. Ça, il faut le dire l'un après l'autre successivement. C'est ça qu'il appelle, c'est le voile de l'expression appropriée à nos besoins à la fois d'énonciation et de compréhension. La connaissance est là. Elle est là actuellement, non pas qu'on est en train de la chercher et que c'est à mesure qu'on la trouve, qu'on l'exprime. Elle est là dans sa totalité, mais le besoin de l'expression fait qu'on doit le dire l'un après l'autre. Et alors ça diminue naturellement cette omnipotence dont il parle, parce que c'est la vision totale de la chose s'exprimant dans sa totalité qui est l'omnipotence. L'omniscience est là, en principe. Elle est là, perceptible. Mais le pouvoir total de cette omniscience ne peut pas agir puisque elle a besoin de descendre d'un plan pour pouvoir s'exprimer. Tu sais ce que je dis? C'est ça qu'il dit. Il faut, pour pouvoir vivre totalement dans la connaissance supramentale, avoir d'autres moyens d'expression que ceux que nous avons maintenant. Il faut que de nouveaux moyens d'expression soient élaborés pour pouvoir exprimer de façon supramentale la connaissance supramentale. Maintenant, nous sommes obligés d'élever notre capacité mentale à son maximum, de façon à ce qu'il n'y ait pour ainsi dire qu'une sorte de frontière à peine perceptible, mais qui existe parce que nos moyens d'expression appartiennent encore à ce monde mental, n'ont pas la capacité supramentale, nous n'avons pas les organes nécessaires pour cela. Il faudrait devenir des êtres du supramental avec une substance supramentale, une organisation intérieure supramentale pour pouvoir exprimer de façon supramentale la connaissance. Jusqu'à présent, nous sommes à moitié là. Nous pouvons quelque part dans notre conscience émerger entièrement dans la vision et la connaissance supramentale, mais nous ne pouvons pas l'exprimer. Nous sommes obligés de redescendre d'un plan pour nous exprimer. C'est ça qu'il décrit. Alors ce voile qui est transparent même quand il semble couvrir, c'est parce qu'il est transparent pour la conscience, n'est-ce pas? Puisque la conscience voit et sait les choses de façon supramentale, mais une partie est voilée et ça ne sort que progressivement, parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Mais pour la conscience, c'est transparent. Quoique dans l'apparence, ça semble caché. C'est ça. On m'a posé des questions à propos du film que nous avons vu hier. La première est tout au moins bizarre. Je la donne telle qu'elle est là. On me demande, le vrai Bouddha que vous connaissez, dont vous parlez dans les prières et méditations, est-il le même que celui dont on adore les statues? Mais les statues, il y a des milliers de statues du Bouddha. Il y a le Bouddha tel qu'on le connaît en Inde. Il y a le Bouddha tel qu'on le connaît à Ceylan. Il y a le Bouddha tel qu'on le connaît au Tibet. Il y a le Bouddha tel qu'on le connaît en Chine, au Cambodge, Thaïlande, au Japon et ailleurs. Si vous parlez question historique. Je pense que tous vous diriez que c'est le Bouddha Gautama de l'Inde qu'il prie. Mais en fait, chacune de ces branches du bouddhisme et beaucoup d'autres ont chacune leur conception du Bouddha. Et c'est la conception d'une divinité que l'on adore dans les statues, beaucoup plus qu'un être vivant. Alors, si vous me montrez une statue, et puis si vous me dites, dans cette statue, est-ce qu'il y a l'influence ou la présence du Bouddha tel que vous le connaissez, je pourrais vous répondre oui ou non. Mais quand vous me dites, dont on adore les statues, je ne peux pas vous répondre. Parce que ça dépend de ce qu'ils ont attiré dans la statue qu'ils adorent. Historiquement, c'est toujours le même nom. Mais en fait, je ne sais pas si c'est toujours la même personne spirituelle. Alors, je ne peux pas vous répondre. Si vous me demandez les statues que nous avons vues hier, vous avez vu combien il y en avait ? Et il y en avait qui étaient très, très différents. C'était un Bouddha très différent. Il y en avait une qu'on nous a répétée très, très souvent et qui est tout à fait authentique. Mais il y en a eu beaucoup d'autres qui étaient représentés au moins d'autres personnalités du Bouddha. Ça dépend de ce que vous voulez dire. Si vous voulez dire historiquement, oui, ils disent toujours que c'est le Bouddha, mais chaque statue est différente. Alors voilà pour nous. Puis alors vous passez à toute autre chose. De quelle manière son enseignement peut-il être maintenant un obstacle ou une aide pour l'humanité sur le chemin de la supramentalisation? Tout ce qui aide l'humanité à faire un progrès est une aide. Et tout ce qui l'empêche de faire un progrès est un obstacle. En fait, vous dites, n'est-ce pas, parce que nous étudions et méditons sur le Dhammapada. Naturellement, j'ai pris ça parce que je considère qu'à un certain moment du développement, ça peut être très utile. C'est une discipline qui a été cristallisée dans certaines formules. Et si on met à profit ces formules, ça peut être très utile. Autrement, je ne l'aurais pas pris. La mesure, ça dépend de chacun. Ça dépend de s'il sait en tirer profit ou pas. Et puis alors, la dernière question, c'est que Sri Aurobindo a dit que le Bouddha était un avatar. Nous avons dit ça plusieurs fois déjà. Et alors là, ça devient très mystérieux. En plus de son enseignement, Que reste-t-il de sa personnalité dans le monde? Pourquoi vous faites cette distinction?
Quand il est mort, on a dit que c'est dans les reliques.
Hein?
Quand on a montré qu'il est entré dans le nirvana, alors on a dit dans les reliques maintenant, son enseignement reste là.
Dans les reliques, son enseignement restera.
Dans les reliques? Eh bien alors, ça veut dire que les deux choses sont ensemble. Je vois pas pourquoi vous les séparez. Il y a quelque chose de son influence dans son enseignement, naturellement. C'est l'enseignement qui transmet son influence pour le... dans le domaine mental. Son action directe en dehors de son enseignement ne peut être limitée qu'à très peu de gens qui sont des croyants très fervents et qui ont le pouvoir d'évocation. Autrement, la partie la plus importante de son action, la presque totalité de son action, est associée, unie, fondue avec son enseignement. Ça paraît difficile de faire une distinction. Ces formes, ces formes de la puissance divine qui se sont incarnées dans des êtres différents, se sont incarnées dans un but spécial, pour une action spéciale, un moment spécial du développement universel, mais essentiellement ce sont seulement des aspects différenciés de l'être unique. Par conséquent, c'est dans la spécialisation de l'action qu'est la différence. Autrement, c'est toujours la même vérité, la même puissance, la même vie éternelle qui se manifeste sous toutes ses formes et qui produit ses formes à un moment donné pour une raison spéciale et dans un but spécial. Cela se perpétue dans l'histoire, mais éternellement, ce sont des nouvelles formes qui sont utilisées pour un progrès nouveau. Les autres peuvent se perpétuer comme une vibration se perpétue, mais leur raison d'être, on pourrait dire historiquement, était momentanée, et elle est remplacée par une autre pour faire un pas nouveau. L'erreur de l'humanité, c'est de s'accrocher toujours à ce qui est en arrière. et vouloir le perpétuer indéfiniment. Il faut utiliser ces choses au moment où elles sont utiles. Et il y a une histoire de chaque développement individuel. Vous pouvez passer par des étapes où ces choses-là ont leur utilité momentanée, mais quand vous avez dépassé ce moment-là, vous devez entrer dans une autre chose, et que ça, historiquement, ça a été utile, maintenant, ça ne l'est plus. Certainement que à ceux qui sont, par exemple, arrivés à un certain état de développement et de maîtrise mentale, je ne leur dirai pas « lisez le Dhammapada et méditez là-dessus », ce serait une perte de temps. Je le donne à ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas dépassé l'étape où ça c'est nécessaire. Mais toujours, on se charge les épaules d'un fardeau interminable, n'est-ce pas, dans le passé, on ne veut rien laisser tomber et on est de plus en plus courbé sous le poids d'une accumulation inutile. Quand ça vous a fait dépasser, vous avez un guide sur un morceau de chemin, mais quand vous avez passé ce morceau de chemin, laissez le chemin et le guide et allez plus loin. Ça, c'est une chose que l'humanité fait avec difficulté. Quand ils attrapent quelque chose qui les aide, ils s'accrochent et puis ils ne veulent plus bouger. Alors, ceux qui ont fait un progrès avec le christianisme ne veulent pas le laisser, ils le portent sur leurs épaules. Ceux qui ont fait un progrès avec le bouddhisme ne veulent pas le laisser, ils le portent sur leurs épaules. Et alors, ça alourdit la marche et ça vous retarde indéfiniment. Une fois que vous avez passé l'étape, laissez-la passer. Qu'elles sont là. Allez plus loin.
Le présent mouvement religio-politique de revivifier le bouddhisme.
Quoi? Oh, je ne fais pas de politique. C'est tout à fait inutile. On se sert des choses pour des besoins justement politiques, mais ça n'a aucun intérêt.